Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Okapi. La situation redevient de plus en plus calme dans la ville de Goma après deux jours d'agitation. La police nationale congolaise a accentué ses patrouilles. L'inspecteur général de la police, John Numbi, est arrivé sur place. Objectif, renforcer la capacité d'action de la police nationale congolaise en vue de mieux assurer la sécurité des habitants. Entre-temps, les efforts diplomatiques s'activent pour décanter la situation à l'Est. La sous-secrétaire d'État américain Jandel Fraser demande au gouvernement congolais et rwandais de travailler ensemble pour faire pression sur le CNDP de Laurent Kunda afin d'arrêter sa progression. Louis Michel, de son côté, commissaire européen au développement, évalue les besoins humanitaires. 6 détenus sont morts au cours de ce mois d'octobre à la prison centrale de Bounia où les conditions carcérales sont de plus en plus difficiles. C'est un reportage à suivre dans la seconde partie de cette édition. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nord Kivu, calme relatif ce vendredi matin à Goma, après une nuit relativement moins agitée qu'il y a deux jours. Les taximens motos rares hier sur la route sont de plus en plus visibles ce matin, signe d'une reprise probable des activités quotidiennes dans la ville où de moins en moins de tirs ont été entendus la nuit. Et ce sont plutôt des policiers qui patrouillent dans les rues en lieu et place des militaires. C'est dans cette ambiance qu'est arrivé jeudi soir l'inspecteur général en chef de la police nationale congolaise, John Numbi est la première autorité nationale à arriver dans cette ville 24 heures après les problèmes d'insécurité causés par des militaires causant la mort d'une dizaine de civils par balles et de nombreux cas de pillage dans les maisons des particuliers. Sur place à Goma, le général John Numbi compte renforcer la capacité d'action de la police nationale congolaise en vue de mieux assurer la sécurité des habitants de la ville. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
Je suis arrivé ici pour garantir la sécurité de la population. Nous voulons augmenter la capacité de la police de pouvoir assurer cette sécurité. Et pour cela, nous allons renforcer cette capacité en termes de mobilité, c'est-à-dire 6 jeeps Land Rover et 15 motos pour pouvoir assurer leur mission convenablement.
Par ailleurs, toujours dans la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais sollicite l'appui de l'Angola. Raymond Tshibanda, ministre congolais de la coopération internationale et régionale, a été à Luanda mardi dernier rencontrer le président Eduardo dos Santos pour se faire, annonce l'agence angolaise de presse. Mais le ministre congolais n'a pas spécifié la nature de l'appui sollicité par Kinshasa. Le gouvernement congolais et rwandais doivent travailler ensemble pour faire pression sur le CNDP de Laurent Kunda afin d'arrêter sa progression. Cette pression devrait aussi s'appliquer sur le FRDC pour arrêter les pillages et les exactions sur les civils. Déclaration hier jeudi à Kinshasa de la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines. Madame Jandai Fraser est en mission à Kinshasa depuis ce jeudi. Sa visite de travail intervient après des combats intenses ayant amené le CNDP de Laurent Kunda aux portes de Goma. De Fraser est au micro de Claude Kianza.
Les États-Unis sont préoccupés par la situation, particulièrement l'impact que ces affrontements ont eu sur les civils, le déplacement de plusieurs civils à travers le Congo. Nous nous concentrons à travailler avec le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda pour que les deux gouvernements travaillent ensemble pour faire pression sur le CNDP d'arrêter sa progression. Mais la pression doit consister aussi à empêcher les FARDC de piller et de s'attaquer aux civils. Notre première préoccupation, c'est d'abord envers les civils.
De son côté, Louis Michel, commissaire européen au développement, a rencontré le président Joseph Kabila hier après-midi à Kinshasa. Il inscrit cette rencontre dans le cadre de l'évaluation des besoins humanitaires causés par la situation à l'est de la RDC. Il livre l'essentiel de son entretien avec le président Joseph Kabila au micro de Alain Irung.
J'ai annoncé que l'enveloppe pour le 10e Fonds européen de développement que je vais signer dans quelques instants, il est largement au-dessus de 500 millions d'euros, c'est-à-dire plus du double comparé au 9e Fonds européen de développement, qu'ils ont une tranche incitative de 25%, que pour ce qui concerne l'aide humanitaire à l'Est, j'ai déjà dégagé maintenant 800 000 euros en plus de ce qu'on a déjà dépensé. Hein. Bon, que je suis prêt à resigner une tranche de 3 millions d'euros si on m'identifie les besoins, et on est occupé à identifier les besoins. Tous nos opérateurs ont été informés que nous étions prêts à financer sur demande, évidemment identifiée, les dépenses en matière d'aide humanitaire. Et donc voilà, ça c'est très concret, vous savez.
Signalons enfin que le président Joseph Kabila s'était entretenu avec son homologue togolais Fornia Sigbé. Rien n'a filtré de leur entretien. Fornia Sigbé venait de Brazzaville où il a participé au 6e Forum mondial du développement durable. Face alors à toute cette situation, l'UNICEF a renforcé sa structure d'urgence à Goma où la situation humanitaire s'est aggravée. Selon son chargé des communications, l'UNICEF craint le déclenchement d'une épidémie de diarrhée ou de choléra, même si jusque-là, aucun cas n'a été signalé. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a mis en place des points d'écoute pour les recherches familiales afin de permettre aux enfants de retrouver leurs parents dont ils ont été séparés au cours de la fuite de combat. Retour à Kinshasa, le gouvernement Mouzitou attendu ce vendredi à l'Assemblée nationale. Selon son président Vital Kamerhe, à part les 5 chantiers qui constituent le programme gouvernemental, les députés nationaux attendent des nouvelles propositions de voie de sortie des crises à l'est du pays. D'après la Constitution, le gouvernement est investi après que son programme soit approuvé par la majorité absolue des députés et entre ainsi en fonction. En rapport avec cette investiture, le Premier ministre Adolphe Mouzitou a rencontré ce mercredi les députés nationaux de l'Alliance pour la majorité présidentielle, mais rien n'a filtré de cette réunion. Autre chose à présent, révisitation des contrats miniers, le délai complémentaire accordé par le gouvernement congolais aux entreprises publiques de renégocier avec leurs partenaires a expiré depuis le 16 octobre dernier. Selon des ONG qui ont pris part aux négociations, plusieurs entreprises ont accepté de renégocier leurs contrats selon les termes de référence des experts. Cependant, le reste des entreprises qui ont refusé la renégociation des contrats sont des entreprises ayant signé des gros contrats. Pour sa part, la société civile estime que le plus dur reste à faire pour que les populations congolaises bénéficient de la manne minière. Nazan Koko.
Parmi les entreprises qui ont refusé la révisitation des contrats selon les termes des références fixés par le panel des experts, Tenke Fungurume dans son contrat avec la Gécamine, Moine Africa dans son contrat avec Okimo sur le projet Zani, ainsi que MDDK avec Kisenge Maranese. Les raisons sont multiples. Tenke Fungurume veut renégocier comme convention, c'est-à-dire comme un accord signé avec l'État, alors que l'accord signé n'est pas une convention. Pour moi, en Afrique, les termes de référence ne sont pas une loi, estime Ngandou, son directeur.
Les termes de référence sont pour moi un cadre de négociation, mais qui ne sont pas des lois. Moi, j'ai fait de la recherche et vous me demandez de payer les pas de porte. La base légale, c'est d'abord la loi et les contrats. Bon, à partir du moment où on sort de là, ça peut devenir un problème.
La plupart des contrats ont pourtant été révisités selon les termes de référence du panel. Des parts sociales passent jusqu'à 25% alors que les autres taxes, royalties et pas de porte sont revues à la hausse et très peu d'accords seront résiliés. La société civile dont certains syndicalistes ont pris part aux négociations salue le courage du gouvernement pour cette révisitation. Cependant, estime-t-elle, les plus durs restent à faire. Jean-Pierre Mouteba de la dynamique syndicale.
Qu'on vote des lois, qu'on mette en place des mécanismes pour que ce qui s'est fait ne puisse pas se reproduire. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et la société civile devrait rester tout à fait mobilisée, notamment en ce qui concerne la traçabilité des recettes.
La primeur des résultats des renégociations est réservée au gouvernement qui devra décider de la suite.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
La ronde en province, Mireille Bukassa, d'abord le Katanga. L'université de Lubumbashi a bénéficié ce jeudi de 5 grands bus de 75 places chacun et 5000 litres de gasoil.
C'est un don du gouverneur Moïse Katumbi. À côté de ce don, l'université de Lubumbashi a aussi reçu par la même occasion un important lot de la literie, offert cette fois par le gouvernement provincial du Katanga. Précisons que la literie est destinée aux homes qui ont été réhabilités l'année passée par le Bureau central de coordination BCECO.
semaine. Et puis, nous l'avons dit au sommaire, en Ituri, 6 détenus sont morts au cours de ce mois d'octobre à la prison centrale de Bounia.
Le tout dernier est décédé mercredi dernier dans cette maison pénitentiaire. Le corps en putréfaction d'un autre détenu mort il y a 4 jours traînait encore le même mercredi dans cette prison. D'après le directeur de cette prison, le manque de médicaments et l'insuffisance de vivres ainsi que l'absence de personnel médical dans cette maison pénitentiaire en sont l'origine. Un reportage de Isaac Remoyope rendu par Suzanne Zobo.
Tous ces prisonniers décédés souffraient de malnutrition sévère. Les directeurs de la prison affirment que les détenus mangent un petit repas par jour. Cette situation est exacerbée par le manque de soins médicaux et l'absence de personnel médical dans cette maison pénitentiaire. 28 autres détenus sont malades et 3 parmi eux dans un état critique ont été transférés hier mercredi à l'hôpital général des références de Bounia. Selon des sources médicales, ces détenus souffrent pour la plupart des diarrhées, d'hypoglycémie et de paludisme. Le médecin directeur de l'hôpital général des références de Bounia a remis un lot de médicaments pour la prise en charge de ces malades. Contacté, le commissaire de district a adjoint en charge de l'économie et finances a déclaré qu'à l'issue d'une réunion d'urgence tenue par le comité de sécurité du district et le gouverneur de la province, des solutions immédiates ont été trouvées, telles que l'achat de vivres pour une valeur de 1 000 $ américains et à long terme, ce comité suggère notamment le décongestionnement de la prison centrale de Bounia. Bounia, Suzanne Zobo-Odra, Radio Okapi.
Bakongo maintenant, 21 clandestins ouest-africains arrêtés mercredi dernier par les services spéciaux de la police nationale congolaise à Matadi.
Selon les services spéciaux, ces clandestins qui ont quitté Kinshasa pour l'Angola via la ville portuaire de Matadi ont été appréhendés par un agent de la police de roulage, comme nous l'explique Vicky Odia dans ce reportage.
Ce sont 16 Guinéens, 3 Sierra Leonais, 1 Malien, 1 Ivoirien. Ces clandestins ouest-africains ont été appréhendés par un élément de la police de circulation routière en Pozo, entrée principale de la ville de Matadi sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Les policiers ayant remarqué le comportement suspect du chauffeur a poursuivi le véhicule jusqu'à la place Musée Kabila. Ces clandestins affirment avoir payé 500 $ chacun à partir de Kinshasa auprès d'un certain Monsieur Léonce pour les conduire en Angola. Signalons que depuis quelque temps, la province du Bas-Congo est devenue la porte d'entrée de clandestins ouest-africains vers l'Angola. La semaine dernière, 8 autres clandestins sont tombés dans le filet de la police de migration. Contacté, un agent de la DGM qui a requis l'anonymat déclare que le Bas-Congo fait de son mieux pour mettre ces clandestins à la disposition de la hiérarchie à Kinshasa. Malheureusement, ceux-ci sont souvent libérés. Matadi, Vicky Odia, Radio Okapi.
Et puis à Kinshasa, Mireille, une trentaine de personnes ont été enlevées la nuit dernière par des hommes en armes.
Il s'agit des employés du groupe Sibé Congo et des passagers qui attendaient l'embarquement pour le port Mugalo au sud d'Ubangi. D'après l'avocat de la société, il s'agit d'une deuxième opération du genre. La première a eu lieu au mois de mars dernier. Maître Alexis Lenga rapporte que les motifs de ces arrestations massives n'ont pas été révélés, moins encore le lieu de détention. Face à ce non-respect des procédures légales d'arrestation, Maître Alexis Lenga, avocat conseil du groupe Sibé Congo, parle d'enlèvement. Il le dit au téléphone de Mimi Ngumba.
Normalement, il n'y a pas d'arrestation pendant la nuit. On ne peut pas venir la nuit interpeller des personnes, prendre des gens sans que leur famille ne sache exactement là où ils sont partis. Nous sommes quand même dans un état de droit. Nous savons que lorsqu'il y a un problème qui se passe, on procède à une interpellation normale. Au lieu de venir la nuit, on enlève et on bastonne les gens. On les embarque pour les amener à des destinations inconnues. C'est ce que nous regrettons, madame. Lorsque il y a des pareilles situations qui se passent, nous savons quand même que souvent l'opération c'est par le service armé, le service spécialisé de renseignement militaire. Donc nous comptons saisir l'auditorat général qui doit descendre sur le lieu, savoir qui est pris et quels sont les biens qui sont emportés.
La même source ajoute que les recherches se poursuivent en vue d'identifier nommément toutes les personnes enlevées et ainsi retrouver leurs traces.
La culture dans ce journal, l'environnement est le sous-thème de l'exposition qui se tient au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa du 23 octobre au 6 novembre.
Organisée par les ateliers 3 Cocorico et le collectif de cinéastes congolais, cette exposition baptisée Kabola Film montre le regard des artistes camerounais et des cinéastes congolais sur la ville de Kinshasa.
Merci Mireille. En dehors de nos frontières, l'élection présidentielle s'est achevée jeudi soir dans le calme en Zambie, où les opérations de dépouillement ont débuté peu après la fermeture des bureaux de vote, laissant craindre des troubles à l'annonce de premiers résultats si le parti au pouvoir l'emportait. Selon les médias zambiens, il y a eu un faible taux de participation dans plusieurs provinces. Certains bureaux de vote ont retardé leur fermeture pour permettre aux électeurs qui attendaient devant les bureaux à l'heure officielle de fermeture de voter. Sport enfin, la 5e édition de la Coupe de la Fédération de Volleyball du Congo appartient désormais au passé. Ce championnat national a fermé ses portes hier soir au Stadium des Martyrs de Kinshasa. À cet effet, l'équipe de force terrestre est sacrée championne du Congo chez les messieurs. C'est là après avoir battu Tonnerre sur la marque de 3-7-0. Chez les dames, la Coupe est revenue à The Club qui a triomphé sur Kano Denjili par 3-7-1. Pour rappel, la compétition a réuni 18 équipes représentant 4 de 11 provinces du pays, à savoir le Bas-Congo, Kasaï Oriental, Katanga et enfin Kinshasa, la capitale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au Capi.